Bonsoir, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui écoutent Radio Galère sur 88.4. On est tellement contents d'être là au studio avec toujours Sidi à la technique. Bonjour Sidi. Donc je suis Philippe, je participe à l'animation de cette émission Une heure en Palestine parce que je suis adhérent de Palestine 13. Voilà, il y a parfois d'autres structures qui interviennent comme par exemple la campagne BDS, Boycott, Désinvestissement, Solidarité, ou les gens de l'Union juive française pour la paix, etc. Et alors parfois on est un petit peu seul au micro, des amis, des correspondants nous envoient des sons, mais là on a au micro trois jeunes femmes et je suis très content de les présenter. Alors on a Ryslaine avec nous qui est déjà intervenue. Ryslaine, bonjour.
Bonjour Philippe.
Voilà. Voilà, donc tu es là parce que tu as travaillé tout l'automne dernier, l'hiver, à la boutique Yabladi qui propose des produits palestiniens à la place Labadier. Je sais que tu es très engagée avec toutes les actions qui ont été initiées avec urgence. Redis-moi la suite.
Union pour la Palestine, Marseille.
Eh oui, maintenant c'est sûr que c'est toujours urgent, mais là c'est important que ça soit une union pour la Palestine. Et en plus, moi j'ai sur moi un très très beau t-shirt là, qui est sorti de votre créativité. Et donc merci Ryslaine d'être avec nous. Et Ryslaine est intervenue très souvent à propos du boycott de certains produits. On a avec nous des jeunes femmes qui font partie de la magnifique équipe du festival Ciné Palestine. Et c'est surtout de cinéma qu'on va parler ce mercredi soir. Ce festival existe depuis plus de 12 ans à Paris. Alors bon, moi qui suis à Marseille, je n'en avais jamais entendu parler. Mais heureusement, l'équipe s'est, je dirais, développée à Marseille depuis 4 ans. On sera à la 4e édition. Et donc on a avec nous Marie. Bonsoir Marie.
Bonsoir, merci beaucoup pour
Et on a
l'accueil.
Morgane aussi.
Bonsoir.
Voilà, donc merci d'être là. On a eu déjà une soirée de présentation vendredi dernier, c'était au cinéma Le Gyptis. Et donc on va revenir bien évidemment sur ce festival qui va démarrer donc dès demain, jeudi 22, au cinéma Les Variétés de la Canebière. Et puis on est un petit peu triste entre guillemets parce qu'on a découvert une autre Marie qui s'est installée à Marseille depuis 4 ans et qui a vécu de longues mois, de longues années même à Ramallah, en Cisjordanie. Elle était pendant ce terrible 7 octobre en Tunisie, donc elle ne pouvait pas retourner à Ramallah, mais elle voulait absolument y retourner parce qu'elle a noué là-bas en Cisjordanie des relations magnifiques qui lui ont permis d'être co-réalisatrice d'un podcast qui est audible sur toutes les plateformes et qui s'appelle Yalla, je t'emmène. Je t'emmène où ça ? En Palestine. Et elle y est Marie, elle est quelque part entre Ramallah, Jéricho, là où elle peut se déplacer. Et donc elle nous a envoyé un son. Et donc on va, avant de donner la parole à Marie, elle se déplace donc comme elle le peut entre les différentes terres, entre les différents villages, entre les différents endroits où tant bien que mal des agriculteurs, des producteurs, des productrices continuent à cultiver cette fameuse terre. Et donc on est ici à la friche Belle de Mai où tous les lundis en fin d'après-midi jusqu'au début de soirée a lieu un marché de producteurs de la région. Et d'ailleurs à ce sujet, on est donc là à la 4e édition du festival Ciné Palestine à Marseille. Et il y a 2 ans, le thème du festival c'était justement l'agriculture, ce talent incroyable qu'ont les gens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, sur la rive sud ou sur la rive orientale, et qui, dans des conditions très difficiles, climatiques d'une part, mais aussi souvent à cause de guerres, à cause évidemment, là, dans le cas de la Palestine, d'une guerre de colonisation absolument terrible, arrivent malgré tout à produire des merveilles. Personnellement, je ne suis jamais allé en Palestine, mais grâce à des gens comme Marie, grâce à ceux et celles qui font des films magnifiques, et puis grâce à ceux comme la petite entreprise Fipsouk a réussi à importer ces produits palestiniens, eh ben on peut apprécier à quel point ces gens-là savent s'occuper de leur terre, mais aussi de leur mère. Alors voilà, on va donner la parole à Marie. Sidi, s'il te plaît, c'est Marie qui est là-bas en voyage en Cisjordanie.
So I partially live in Ramallah for the weekdays and in Jericho for the weekends.
Voici Dima. Elle a la trentaine. Elle a de grandes lunettes carrées qui glissent sur le bout de son nez. Et elle est originaire de la ville de Jericho. Dans cette note vocale, elle explique vivre entre Ramallah, où elle travaille, et Jéricho. Elle y sera pour le week-end et heureuse de faire découvrir sa ville natale.
I will be more than happy to host you.
Jéricho a été fondée il y a plus de 10 000 ans et se trouve à 240 mètres au-dessous du niveau de la mer, ce qui en fait une des villes les plus anciennes et des plus basses du monde. Mais avant de rejoindre Dima à Jéricho pour le week-end, il y a d'abord une étape cruciale. le trajet et toutes les restrictions de mouvement qu'il implique pour les Palestiniens. En Cisjordanie, quand on n'a pas de voiture personnelle, on prend les transports en commun. Ce sont des minivans orange de 9 places qu'on appelle les services. Ça vient du français service. Et qui attendent à des endroits spécifiques dans la ville, en fonction de leur destination. Ils attendent parce qu'ils doivent être d'abord remplis de passagers pour partir, ce qui veut aussi dire qu'il n'y a pas de départ à heure fixe. Le premier à arriver devra attendre les 7 autres passagers avant de se mettre en route. Et ça, ça peut durer 2 minutes comme ça peut prendre 1 heure. Une fois le van rempli de voyageurs, le chauffeur se met en route. Et là, il y a plusieurs types de chauffeurs. Ce sont toujours des hommes, mais certains sont calmes, d'autres pressés, certains mettent les informations à la radio, d'autres de la musique. Mais tous conduisent très, très vite. Et tous sont constamment au téléphone. En l'occurrence, on est arrêté sur le bas-côté et le chauffeur explique qu'on doit attendre l'ouverture du checkpoint à 9h. En fait, être au téléphone pour les chauffeurs, c'est aussi très souvent une manière de communiquer pour se tenir au courant des incidents sur la route. Est-ce que tel checkpoint est ouvert? Est-ce que telle route est ouverte? Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes? Très souvent, ces conversations tournent autour des conditions sur la route, et en particulier les checkpoints. Ce sont des barrages militaires israéliens qui restreignent très sévèrement les mouvements des Palestiniens en Cisjordanie. Il y en a partout sur les routes. Ils permettent à l'armée israélienne de contrôler quasiment toutes les allées et venues des Palestiniens. Un rapport des Nations Unies du 20 mars dernier comptait 849 checkpoints en Cisjordanie. C'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter et qui décourage beaucoup de Palestiniens à prendre la route. D'abord pour leur sécurité. Au checkpoint, il y a de grandes chances d'y voir des soldats israéliens armés qui vont contrôler les véhicules, les passagers et leurs papiers d'identité. Et si les soldats ne s'approchent pas du véhicule pour le contrôler, ils restent postés dans une cabine, parfois un simple bloc de béton, avec toujours une arme pointée en direction des véhicules palestiniens. L'enjeu, c'est de bien faire attention aux gestes des soldats. À bord du minivan, l'ambiance se tend quand on approche d'un checkpoint, tous les passagers sont sur leur garde, le chauffeur baisse la musique, interrompt son appel. Ici maintenant, le but, c'est de faire profil bas. L'autre raison qui décourage les Palestiniens de se déplacer en Cisjordanie, ce sont les embouteillages. Ils sont une conséquence directe des checkpoints. Comme chaque entrée et sortie de chaque ville, et parfois même des villages, sont contrôlés par des checkpoints, ils se transforment bien souvent en goulot d'étranglement. On peut donc attendre pendant des heures à un checkpoint, au point qu'il a été calculé que les Palestiniens perdent 60 millions d'heures de temps de travail. Et encore, ce chiffre est un peu dépassé puisque c'est un rapport de l'Institut de recherche appliquée de Jérusalem qui a été publié en 2019. Depuis, le nombre de checkpoints a considérablement augmenté, a fortiori depuis le 7 octobre 2023. Mais une fois passées toutes ces restrictions de mouvement, l'ambiance dans le minivan n'est plus détendue, certains passent des appels pour prévenir leurs proches. Que le plus dur est passé, le minivan continue son chemin jusqu'au centre et dépose ses passagers. Dima est justement là,
Hi.
Prête à nous emmener faire un tour de sa ville natale, Jéricho.
Bon, remercie beaucoup Marie. Donc manifestement, elle a l'habitude de voyager entre les différentes villes et villages de Cisjordanie. On comprend que c'est de plus en plus difficile, non seulement parce que les checkpoints se multiplient. D'ailleurs, on va entendre tout à l'heure une musique qui est produite par un groupe qui s'appelle Checkpoint 303. Et on parlera aussi, bien évidemment, tout à l'heure avec Rislaine de ces fameux produits de Palestine qui sont importés en France. Là, un conteneur avait réussi à partir du port de Haïfa en novembre dernier. Mais avant, il fallait que depuis Jéricho, justement, dont parlait Marie, où se produisent les fameuses dattes medjoul, ou depuis Ramallah, ou depuis Taïbé, où se produit la bière, c'est de plus en plus compliqué pour que les camions franchissent ces routes qui sont dégradées par les colons qui les dégradent de façon volontaire. Et puis après, une fois que les palettes arrivent à Haïfa, c'est encore très compliqué de traverser la mer. Et donc, merci à Marie qui a beaucoup de courage, voilà, de retourner là-bas parce qu'elle est vraiment amoureuse des terres qui sont là-bas, des gens qu'elle a pu rencontrer. Donc je vous invite vraiment à écouter ce podcast « Yalla, je t'emmène », disponible sur toutes les plateformes. Et on imagine à quel point elle nous dit le nombre d'heures de travail incroyables qui sont perdues sur les routes, mais c'est encore pire, je dirais, sur la mer. Et parmi les musiques que nous a envoyées l'équipe de Festival Ciné Palestine, il y en avait 4 ou 5. Dès que j'ai vu le mot mer, j'ai dit on la passe. Pourquoi ? Parce que parmi les films vraiment superbe qu'on peut voir en accès libre sur YouTube. C'est un film qui s'appelle Aimer la mer à Gaza. Donc j'invite tout le monde à voir ce film, en particulier parce qu'on voit une jeune fille qui réussit à devenir patron pêcheur, qui a réussi à devenir mère. Et lorsqu'après le drame terrible du 7 octobre, on voyait encore des bâtiments debout de Rafah, de Gaza, etc. s'écrouler, eh ben, cette femme qui était devenue mère avec ses amis pêcheurs, ils étaient sous des tentes sur les dunes et ils se faisaient encore tirer dessus par les gardes-côtes de l'armée d'occupation israélienne. Voilà, et donc on va écouter cette musique qui s'appelle. Alors je vais demander à Morgane qui nous en a parlé de cette musique, puisque c'est un joueur de oud très connu qui depuis les tout débuts du festival Ciné Palestine le soutient en faisant des musiques. Ce festival bien sûr qui est très dur à organiser, toute l'équipe est bénévole depuis 12 ans à Paris, depuis 4 ans à Marseille. Et on a eu à Marseille pour financer un peu ce festival, une très grande soirée au fameux Molotov, hein, la salle vraiment géniale qui est à l'angle de la rue d'Aubagne et du cours Julien. Et donc à cette soirée, tu peux nous dire donc, qui est ce musicien ?
Eh ben, c'est un musicien de oud qui s'appelle Issa Mourad.
Oui.
Et qui nous a fait l'honneur de sa présence à cette soirée de soutien. Parce que voilà, on précise qu'on est une équipe de bénévoles et donc ces soirées de soutien sont vraiment précieuses pour récolter des fonds et nous permettre de continuer notre travail. Et la chanson s'appelle La Mer.
Alors on écoute Issa Mourad, grand soutien du Festival Ciné Palestine. Et on écoute la mer surtout, la mer. Thank you. Donc on entendait donc à travers cette musique du oudiste Issa Mourad, la mer. Enfin, moi j'entendais la mer en tout cas, avec ses percussions comme du sable qui roule sur les vagues, avec cette flûte évidemment qui nous fait penser au vent et qui évidemment nous fait penser à Gaza. Puisqu'encore une fois, à chaque fois qu'on évoque la Palestine, et c'est bien normal, on parle des terres. On a entendu tout à l'heure Marie de Yalla, je t'emmène, qui nous raconte son voyage entre guillemets en Cisjordanie sur des routes très compliquées. Et on parle des territoires occupés évidemment, on parle des frontières terrestres, etc. Mais on ne parle pas assez de la mer, surtout quand il est question de Gaza, qui autrefois, les côtes de Gaza, alors ça, je ne parle pas du tout de ce que certains envisagent d'en faire, en particulier l'affreux Trump qui prétend vouloir en faire une riviera à la française, mais il y a pendant des décennies, pendant des siècles certainement, les pêcheurs sortaient de la mer à Gaza, des poissons qui nourrissaient quasiment tout le Moyen-Orient, et on sait ce qu'il en est maintenant. Alors du coup, maintenant, c'est Morgane hein, qui fait partie de l'équipe du Festival Ciné-Palestine, qui nous a envoyé plusieurs musiques, dont celle-ci. Et on va laisser Morgane donc, nous présenter l'édition 2025 du Festival Ciné-Palestine, qui commence à Marseille dès demain, jeudi 22.
Merci. Alors peut-être un petit mot général pour présenter le festival. On est un festival de cinéma palestinien. Comme Philippe l'a dit, on existe depuis 2014 entre Paris et Marseille, et depuis 2022 à Marseille. Donc ce sera notre quatrième édition marseillaise. C'est un festival qui a été créé par un groupe de militants cinéphiles qui avaient l'envie de montrer la richesse et la qualité du cinéma palestinien et de créer une plateforme pour générer des espaces de rencontre entre cinéastes palestiniens et public francophone. Donc je précise à ce sujet qu'on fait un travail important de traduction et de sous-titrage de films pour les rendre accessibles au public francophone. Et c'est un festival qui s'inscrit dans la volonté de contribuer à diffuser les récits des Palestiniens et Palestiniennes face au projet colonial sioniste, dont le mythe fondateur est en fait l'idée que la Palestine n'a pas d'existence propre, pas d'histoire, pas de culture. Et donc c'est notre manière à nous, à travers le cinéma, à travers la culture, de lutter contre ces tentatives d'effacement qui sont à l'œuvre plus que jamais, mais qui sont à l'œuvre en fait depuis 1948, et en diffusant donc à notre échelle les paroles, les récits de vie et la culture palestinienne par le médium du cinéma. Comme on l'a dit, donc ce sera la quatrième édition qui va débuter demain et qui va se terminer le 25 mai. Et ensuite, l'édition se poursuivra à Paris entre le 29 mai et le 8 juin. Je vais laisser la parole à ma collègue Marie pour présenter un petit peu le focus de cette année.
Alors cette année, on est parti sur un focus un peu plus large qu'on a nommé permission de narrer. Et dans un contexte d'anéantissement qui se poursuit et qui s'accélère de plus en plus, on a vraiment plein d'images qui nous arrivent et des sons qui sont hyper violents et qui finalement ne semblent faire réagir personne. Et donc face à un génocide permis et soutenu par la plupart des médias de masse et des gouvernements, se fabrique à grande échelle un consentement à un nettoyage ethnique des Palestiniennes et Palestiniens, basé sur des bases impérialistes, racistes, et qui finalement hiérarchise des vies. Et dans tout ça, on assiste à un renforcement d'un discours hégémonique qui s'est construit depuis des décennies et qui légitime un récit sioniste. Voilà, du coup, pendant la préparation de la programmation de cette année, on s'est un peu interrogé sur la responsabilité des films, du choix des films à montrer, et finalement, que peut le cinéma dans ce contexte-là. Donc, notre boussole cette année, ça a été un article du penseur palestinien Edouard Saïd, Permission to Narrate, qui, déjà en 1984, écrivait après le siège israélien à Beyrouth, de la nécessité de se réapproprier les récits et comme une partie fondamentale de la lutte palestinienne. Donc dans notre programmation avec les cinéastes, on a mis on a réfléchi autour de tout ça, de fabriquer finalement des contre-récits en réutilisant des images, notamment on a des images d'archives qui datent de l'époque coloniale, donc comment se réapproprier ces récits et les raconter autrement, aussi avec d'autres formes qui sont des gestes filmiques différents, et notamment sur une journée où on va réfléchir à tout ça au polygone de table ronde, où on questionne finalement aussi ce... On utilise à la fois des images très frontales avec notre invitée Monica Maurer qui sera avec nous cette année, de massacres, et finalement qu'on peut mettre en parallèle avec des images qui ont été juste, enfin un film qui montre juste un ciel, par exemple le ciel de Beyrouth, et qui est tout en, autant violent finalement.
Ok.
Voilà, je m'arrêtais là.
Non, mais ça fait déjà beaucoup de choses que propose ce festival. Donc tu as parlé à un moment donné de hiérarchisation des êtres humains. Donc ça fait des années que dans les gens qui comprennent que le système capitaliste est absolument terrible et réduit des humains au rang de numéros, voilà, quand on est ouvrier, on parle de déshumanisation. Mais il y a quelques mois en arrière, grâce à des jeunes... une autre jeune femme, une amie Doris Lane, qui nous avait fait une très belle intervention pour expliquer ce qu'est l'infra-humanisation, c'est-à-dire que l'armée d'occupation permanente, en fait, depuis cette fameuse Nakba de 1948, fait en sorte que les Palestiniens en général, et les Gazaouis en particulier, sont considérés comme moins que des êtres humains, et donc finalement c'est normal qu'ils souffrent, c'est normal qu'ils meurent, voilà, comme des insectes. Enfin, il y en a même un ancien diplomate qui a comparer ces gens-là au pire que des animaux. Voilà. Et donc, je comprends que le sujet de cette année, c'est que le cinéma peut être un moyen de donner la possibilité à des gens, y compris avec des moyens très modestes, de refabriquer leur propre récit avec des images contemporaines. Et j'ai même entendu un travail de gens qui récupèrent des images d'archives avec cette occupation vue du côté des colons et qui les réarrangent en quelque sorte pour raconter l'histoire vue de l'autre côté. Ok, alors donc vous l'avez compris, le Festival Ciné Palestine est accueilli dans plusieurs cinémas. Dans la première année, moi j'avais retenu qu'il y avait le petit cinéma, mais très important, le Vidéodrome au cours Julien. Il y a toujours cette structure incroyable qui s'appelle le Polygone Étoilé. Hein, le Polygone Étoilé, peu de gens savent que ça existe. C'est vraiment très proche du centre-ville de Marseille. Et là aussi, c'est une petite structure, géographiquement parlant. Il y a très peu d'espace, une petite salle. En revanche, il y a des connexions avec un nombre incroyable de petites ou grandes structures qui permettent que finalement, des films peuvent sortir. Il y a eu donc la présentation au cinéma Le Gyptis, qui est très impliqué maintenant dans le festival, et on a vu un film qui a mis 8 ans à se monter, avec en particulier, je crois que c'est encore la présidente du festival, c'est-à-dire Rawan Odeh. J'ai vu au générique également le nom toujours présent quand il s'agit de cinéma pour parler de la cause palestinienne, de ce cinéaste israélien installé à Marseille qui s'appelle Eyal Sivan. Voilà. Et donc, on a maintenant de façon systématique le Polygone Étoilé, le cinéma Le Gyptiste, le Variété au milieu de la Canebière, et puis le Vidéodrome et la Baleine. Alors, j'en profite aussi pour dire que cette fin de semaine va être riche, puisque en plus des possibilités que donne le cinéma ou les vidéos pour se fabriquer un récit, pour vraiment avoir la parole avec l'image et le son, il y a bien évidemment les livres. Et donc, pour ma part, j'ai beaucoup appris de beaucoup de livres, mais en particulier celui du porte-parole de l'Union juive française pour la paix, Pierre Stamboul, qui a édité il y a pas mal de temps maintenant un livre qui s'intitule « La Nakba ne sera jamais légitime ». Donc ce mot-là, enfin, on ne le prononce plus, malheureusement, je dirais, à cause de ce qui se passe depuis le 7 octobre, mais des gens prennent enfin conscience. J'entendais d'ailleurs au mois d'octobre 2023 François Hollande dire que la guerre avait démarré là, le 7 octobre, alors que c'est donc depuis évidemment 1948 et même bien plus tôt que cette emprise sioniste avec colonisatrice de dépeuplement et de déplacement et de déportation a démarré. Elle n'est pas finie. Et donc le vendredi 23, ce vendredi, là, après-demain, à la librairie Maupetit, en haut de la Canebière, à 17h, un nouveau livre donc va nous être présenté qui s'appelle Gaza, Mort, Vie, Espoir, aux éditions Rive Neuve. Il date donc de 2025. C'est un livre collectif avec Brigitte Chaland, avec donc Pierre Stamboul, avec Kamel Elias, avec Sarah Katz. Alors Sarah Katz, c'est donc elle qui a pris ces photos et ces vidéos qui ont permis de faire exister le film Aimer la mer à Gaza. Voilà, donc rendez-vous pour ceux qui le peuvent vendredi 23 à 17h à la librairie Maupetit, et ça ne vous empêchera pas d'aller dans la foulée. Alors le vendredi 23, où est-ce qu'on pourra voir le Festival Ciné Palestine?
Alors le vendredi 23, on sera au Polygone Étoilé.
Ah.
On sera au Polygone Étoilé tout l'après-midi, donc on a une journée assez dense. Alors à 14h, on aura deux tables rondes qui seront animés par Marion Slitin et par Charles Schwarzinger, en présence de plusieurs réalisateurs et réalisatrices palestiniens et palestiniennes. On aura une table ronde qui sera sur le focus dont on vient de parler, une table ronde qui sera sur la réutilisation d'images d'archives pour la production voilà, et pour la réalisation de films.
Oui. D'ailleurs, je tiens à signaler que en plus du Festival Palestine, bon, on sait tous que dans des endroits comme le Molotov, ou dans des bars associatifs, ou dans des théâtres, ou dans des salles de spectacle, c'est ce qu'on appelle des scènes ouvertes, où des musiciens ou des chanteurs, plus ou moins confirmés, peuvent vraiment se produire. Et il existe au Polygone Étoilé des scènes ouvertes pour des vidéastes, y compris amateurs, qui peuvent venir. Il n'y a pas forcément un sujet. Et je trouve que c'est un très bon moyen de diffuser et de faire se développer des talents. Donc, le vendredi 23, tout l'après-midi, et alors, c'est jusqu'à quelle heure vous pouvez les gagner étoilés?
C'est toute l'après-midi et toute la soirée. Donc on a deux tables rondes à partir de 14h. Oui. Puis on a une séance à 18h. Un repas de soutien qui sera organisé par le festival.
Excellent.
Donc voilà, on vous prépare de bons plats. Voilà. Et on terminera à 21h pour une dernière séance avec un focus sur une cinéaste qui s'appelle Nada El Omari.
Ok, donc vous l'avez compris, demain, donc jeudi, ça démarre aux variétés, on sera en place déjà depuis 18h30, mais c'est un festival, donc c'est pas un film, il y a plusieurs films qui sont produits, des réalisateurs viennent sur scène, bref, et donc si on n'est pas à l'heure, c'est pas du tout important, on peut arriver à 22h, etc. Et donc le vendredi 23, en plus, au Polygone Étoilé, on pourra donc goûter des excellents produits. Alors à propos de produits, je voudrais passer la parole à Rislaine. Bon, faut pas le dire, dans le studio de Radio Galère, normalement, on peut pas boire et manger, mais on n'a pas résisté au fait d'avoir avec nous les fameuses dattes Medjool qui sont produites à Jéricho, dont nous parlait tout à l'heure Marie avec son podcast Yalla, je t'emmène. Et puis bon, on boit de l'eau de Marseille, évidemment, on a au moins ça de bon. À Marseille, l'eau du robinet, mais depuis quelques temps, moi j'ai le plaisir à boire du Palestine Cola. Et c'est toi, Rislaine, qui nous en avait parlé, parce que toi, tu es très très impliqué dans tout ce qui permet aux gens qui se demandent comment je peux aider, ben, une façon très très simple d'aider, c'est d'acheter des produits qui sont proposés à la consommation par des entreprises qui finance la colonisation illégale d'occupation en Israël. Alors il y a évidemment une campagne internationale très très bien organisée. Il y a quelque temps, des responsables politiques français affirmaient que c'était illégal, mais bien évidemment que la Commission européenne valide toute action de boycott tant que ça, il n'y a pas d'incitation à la haine raciale ou quoi que ce soit. Il y a une incitation à détester les entreprises qui financent des colonisations illégales et génocidaires. C'est ça, Rislaine?
Bien sûr, le boycott est très important. C'est notre arme. Il a fait ses preuves en Afrique du Sud et il marche actuellement. Voilà. On continue et on ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets concernant le boycott. Tout d'abord, le boycott fonctionne. Les résultats le prouvent actuellement. Carrefour, qui perd 50% de son chiffre d'affaires. Starbucks et McDonald's, une perte de 18 milliards de dollars. KFC ferme toutes ses portes en Turquie, etc., etc. La liste est longue. Le boycott, c'est à vie, jusqu'au désinvestissement de l'État génocidaire. En ce moment, les personnes du monde entier sont choquées et en colère en voyant les images de ce génocide en cours et se mettent à boycotter tout. Beaucoup de marques sont touchées par le boycott, notamment le cas de Starbucks, qui n'est pas visé par les associations, mais boycotté quand même, causant des pertes de chiffre d'affaires et d'emplois. Je m'adresse aux grandes marques multinationales comme celle-ci, qui sont victimes du boycott et qui ne veulent plus l'être. Désinvestissez-vous si vous n'êtes pas investi dans cet État génocidaire. Parlez de la Palestine dans vos publicités. Et ensuite, tournez-vous vers les associations qui défendent les droits humains, comme le groupe BDS, l'association Union Juive pour la Paix, etc., etc. Il y en a beaucoup, pour obtenir de l'aide et relancer votre entreprise. En tant que consommateur, nous avons le pouvoir et notre choix en tant que consommateur est très important. Que ce soit 1 euro ou 1 million d'euros, c'est une force que nous donnons. Mettons notre impact pour les entreprises et les commerces utiles à la société et aux travailleurs qui ne participent pas à l'expansion de l'État voyou, sioniste et à ce génocide. Pour vous aider à boycotter, il y a les applications utiles, comme Boycott, qui est partenaire du groupe BDS et qui classe la marque selon son degré d'implication. Boycott X, c'est la plus connue, et No Thanks. Vous avez simplement à scanner le code barre pour connaître si c'est à boycotter ou non. Nous sommes le pouvoir, l'unité, notre force est puissante. Prenons toujours exemple sur l'Afrique du Sud qui a vaincu l'apartheid grâce au boycott et à l'unité du peuple. Le boycott doit être notre arme face à toute injustice dans l'avenir. Transformons notre dépression, notre frustration face à toutes ces injustices en parlant du boycott, pardon,
ouais,
en bah manifestant.
Oui, Ristine, par exemple, voilà, tu nous donnes vraiment un outil, et tu disais à une émission précédente, quand on rentre dans un magasin et qu'on voit par exemple au hasard des dates Meljoul où il y a écrit Israël dessus, ou des fruits, ou des oranges, ou des clémentines, tu nous disais que normalement il y a un règlement qui doit obliger que sur l'étiquette ce produit provient d'une colonie.
Oui.
Et évidemment, ce n'est pas respecté. Donc on a ce moyen, tu disais au magasin, mais
on a le droit de savoir.
Voilà, on a le droit de savoir, et puis on a le droit aussi d'être un petit peu en colère, de voir qu'il y a un produit, voilà, qui provient de producteurs qui sont illégalement installés à la place d'autres gens, c'est ça ?
Bien sûr. Voilà.
Écoute, Ristine, merci beaucoup. On va continuer à parler de ça, ne t'inquiète pas. Et en tout cas, on entendait tout à l'heure Marie qui essaie de se déplacer entre des villages et des zones de production, justement Jéricho où sont produites les dattes, Ramallah où est produit l'huile, Taïeb ou Taïbé où est produit la bière. Et on va écouter donc une musique qui est produite par un groupe justement qui s'appelle Checkpoint 303. Et qu'est-ce qui nous en parle, c'est Marie ou c'est Morgane, de cette musique?
Moi, je peux.
Oui.
C'est une musique du coup qui a été faite avec qui est le poème de Refat Al-Harir, pardon, qui du coup est mort à Gaza sous les bombardements le 6 décembre 2023. Et du coup, il y a un projet que nous on va découler dans nos séances qui s'appelle Some Strings, qui sont des gestes d'artistes à travers le monde qui ont repris, parce que du coup l'emblème c'est Strings, c'est les ficelles du cerf-volant. Donc voilà, qu'on travaillait sur cette thématique et on aura sur toutes nos séances un petit poème. Un petit cours.
Voilà, donc ce fameux... Moi, je citais Rafat Al-Harir comme un poète, mais il était poète, mais il était aussi un grand professeur d'université à Gaza. Dès que le 7 octobre a eu lieu, il a compris que ça allait être très, très compliqué. Donc, il a écrit ce texte « Si je dois mourir, il vous appartiendra de vivre ». Lors d'une des émissions de cet hiver passé, on a passé ce texte mis en musique par notre fameux HK Ali Saltimbanque. Mais là, donc, on l'écoute cette fois en anglais par Checkpoint 303.
Not even to his flesh. even to himself. Sees a kite, my kite, you made, flying up above. And thinks for a moment an angel is there. Bringing back
pour préciser, j'ai oublié, mais c'est la musique qu'on a choisie pour notre teaser de l'édition de l'année dernière, qui était basée sur les archives, et donc qui est le poème « If I must die, you must live to tell my story » de Rifat Alarir, qui est donc poète et Gazaoui, qui a été ciblé le 6 octobre, voilà. Décembre 2023.
Ouais. Voilà, et donc en fait, dans son poème, il dit que si je dois mourir, et c'est ce qui s'est passé, il vous appartiendra de vivre. Et dans son texte, il dit de faire des cerfs-volants pour toujours tisser des fils. Donc c'est cette musique qui était le teaser du festival Ciné Palestine de l'année dernière. Et donc on l'a eu en version française avec HK. Et je signale donc ces musiques-là. Bien sûr, il y a plein de plateformes qui permettent d'avoir des musiques et des clips vidéo. Mais là, on se sert de YouTube. Et que ce soit la musique La Mer qu'on a passée tout à l'heure de Issa Mourad, on peut voir les clips sur YouTube qui sont justement des œuvres aussi cinématographiques qui sont très, très, très instructives à regarder, mais qui évidemment peuvent parfois se désespérer, hein, parce que voilà, mais on a plein de moyens d'agir, de se sentir utile devant ce drame incroyable qui fait que malgré ces images qu'on voit en temps réel, ces sons terribles qu'on entend depuis des mois à Gaza, eh bien même si actuellement là il y a le festival de Cannes, alors les artistes ils font une tribune, mais alors pourquoi ils n'arrêtent pas le festival de Cannes? On a des élus qui eux disent effectivement c'est pas normal, alors pourquoi ils vont pas devant comme on le fait nous la Commission européenne pour arrêter de livrer des armes? Bon, mais ça peut-être que ça paraît compliqué, mais ceci dit je comprends pas pourquoi là il y a eu des artistes extraordinaires dont Robert De Niro au festival de Cannes, mais pourquoi ils se couche pas sur les marches, le tapis rouge, et qui dit voilà, on arrête le festival tant que cette boucherie ne prend pas fin. Bon, mais nous, on n'est pas à Cannes, on est à Marseille, le festival Ciné Palestine. Mais toi, Rislaine, tu nous dis qu'en boycottant, qu'est-ce que ça permet donc de faire?
Alors, ça permet déjà de transformer notre dépression, notre frustration face à toutes ces injustices. En parlant autour de soi, avec le boycott, en manifestant, en résistant. Et notre combat est continuel. Et j'espère la génération suivante prendra le relais avec la même détermination.
Ok. Voilà, mais oui, on parle toujours de la génération suivante. Mais là, c'est la génération actuelle qu'il faut absolument sauver ce qui est possible de l'être. Et donc, oui, indépendamment de ce qui se passe en Palestine, on est en droit, par exemple, on doit boycotter Coca-Cola parce que depuis 6 ans d'affilée, c'est le plus grand producteur pollueur de matière plastique au monde, et c'est pour ça qu'on peut apprécier d'avoir, il y a du Braise Cola, du Cola Breton, il y a plein de Coca-Cola alternatifs qui sont faits dans le monde, on cite d'abord la région et ensuite Cola. Donc là c'est des Suédois qui font du Palestine Cola et c'est un moyen de boycotter Coca-Cola, voilà. Et d'autres entreprises donc qui exploitent des gens en général dans le monde, mais surtout qui martyrisent, qui terrorisent des gens qui sont ceux qui étaient sur la terre, qui résistent encore, mais qu'on veut chasser, qu'on veut expulser, qu'on veut déporter, qu'on est en train de génocider. Voilà, alors bien sûr, on a de la musique, on a du cinéma, mais dans cette émission, on parle toujours aussi de livres. Donc, on a dit tout à l'heure qu'à nouveau, à la librairie Maupetit, il y aura la présentation du nouveau livre qui vient de sortir, Gaza, Mort, Vie, Espoir. On a plein d'autres librairies à Marseille, en particulier la librairie Transit, qui est boulevard de la Libération, numéro 51, qui est une librairie associative, dans laquelle il y a une bibliothèque magnifique de livres qu'on ne voit pas, évidemment, dans d'autres réseaux de distribution, et dans lesquels aussi on peut rencontrer des auteurs, des écrivains. Et on a des maisons d'édition très importantes, en particulier l'édition Alif Bata de l'italienne Simona, qui édite beaucoup de gens. Et en particulier, moi j'ai eu la chance de rencontrer le fameux caricaturiste palestinien Mohamed Sabaneh. Mohamed Sabaneh, quand il était jeune, un autre copain caricaturiste avec lui s'était fait assassiner. Mohamed, il a fait des séjours touristique, on va dire, dans des prisons d'Israël. Et il a écrit un premier livre avec donc les éditions Alif Bata, qui s'appelle « Je ne partirai pas », et qui au début est dur à voir, parce que bon, autrefois, bon, moi je suis pas si vieux que ça, mais autrefois le cinéma c'était en noir et blanc, et quand on ouvre les bandes dessinées de Mohamed Sabaneh, il y a beaucoup de noir, beaucoup de blanc, mais je l'ai vu en conférence où des gens lui demandaient justement, mais comment c'est possible, ayant subi tous ces interrogatoires, ces privations, ces menaces, comment c'est possible que vous écriviez ça? Et en le regardant de plus près, il y a énormément d'humour. Mohamed Sabaneh citait ce gardien, ce Israélien qu'il interrogeait pour la 20e fois, les mains attachées, etc. Et qui lui disait, il faut que tu dises ça, il faut que tu dises ça. Et Mohamed lui répond, quoi, sinon je réponds pas, tu vas me mettre en prison, en rigolant. Et là, j'ai devant les yeux une autre publication de Mohamed Sabaneh, qui s'appelle 30 secondes à Gaza, puisque après le 7 octobre, les débits Internet étaient très très limités, donc les vidéos étaient limitées à 30 secondes. Donc Mohamed voit passer ça, il en dessine quelques-unes, il les envoie à son éditrice qui lui dit oui, bien sûr, il faut faire un livre, mais quand il retourne, elles n'y sont plus, les vidéos. Parce qu'évidemment, comme tu le disais, Rislaine, comme on le dit, beaucoup, la plupart des médias sont dominés par des gens de ce système capitaliste colonialiste, et donc il a quand même pu mémoriser, et donc il a fait cette bande dessinée. Et son message à Mohamed par rapport à la permission de narrer, c'est que lui il raconte à l'encre de Chine parce que c'est indélébile, et donc c'est pour lui une façon que la mémoire de ce qui se passe, même si elle est occultée, même si ceux qui pourraient agir font les sourds et les aveugles et les autruches, en travaillant à l'encre de Chine, eh ben c'est indélébile. Voilà sa façon à lui de produire son récit, de produire les récits de Gaza. On a eu évidemment, j'oublie le nom, mais peut-être que vous l'avez, ce gars extraordinaire qui faisait depuis des années les Gaza Stories. Ouais. Les Gaza Stories, ce sont des petites bulles vidéo qu'on peut voir sur plein de réseaux. J'oublie à l'instant le nom de ce gars génial que j'ai pu rencontrer grâce au fameux Festival Ciné Palestine. Voilà. Mais évidemment, ces productions cinématographiques, audiovisuelles, au bout d'un moment, ça se périme de sa belle mort. Et c'est pour ça qu'il y a eu un gros travail du Festival Palestine pour récupérer des archives et réactiver des anciens films. Mais évidemment aussi, ça se détruit sur ces fameux data centers qui sont toujours, bien évidemment, gérés par les grandes multinationales dont parle Risten. Voilà. Et puis j'ai devant moi, non pas un livre, mais un journal. Alors bon, les journaux aussi, la presse, on parlera tout à l'heure bien sûr des journalistes qui sont martyrisés et ciblés depuis des années, mais depuis en particulier le 7 octobre. Et donc la presse papier a beaucoup de mal à résister. Mais j'ai devant moi un journal que j'aime énormément, qui s'intitule La Tribune des Travailleurs. C'est un journal mensuel auquel on peut s'abonner très facilement. Donc ça s'appelle La Tribune des Travailleurs. Et immanquablement, dans chaque édition, il y a parfois un quart, parfois une demi-page, parfois une page entière à propos de l'abomination, des horreurs que fait subir aux Gazaouis et aux Palestiniens l'armée d'occupation. Et en l'occurrence, sur le numéro du mercredi 14 mai, il y a un gros char là, noir, avec des gens casqués. Et le gros titre, c'est « Netanyahou prépare un nouveau bain de sang à Gaza ». Donc ça a été publié le 13 mai. Et malheureusement, cette annonce s'est vérifiée. Voilà, et donc, bon, l'article fait plusieurs colonnes, mais je vais quand même le dire à la fin. Donc en fait, le Parti des Travailleurs annonce dans son communiqué du 13 mai « Netanyahou mettant œuvre le plan Trump-Netanyahou de destruction de Gaza et de déplacement de sa population. Il veut poursuivre le génocide avec la complicité de Trump et des gouvernements qui lui fournissent ses armes, c'est-à-dire malheureusement en particulier le nôtre, et puis d'autres États de la communauté européenne. Donc il, c'est-à-dire Netanyahou, veut anéantir le peuple palestinien et interdire son droit au retour 77 ans après la Nakba. Le gouvernement Macron-Bayrou verse des larmes de crocodile. Assez de mots, il y a urgence à arrêter le bras des génocidaires. Informé d'un appel de plusieurs organisations, une manifestation, etc. Voilà. Donc je vous conseille à tous ceux qui le souhaitent de s'abonner à cette tribune des travailleurs. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a une assemblée générale demain, jeudi 22, et certainement que des gens qui travaillent à cette édition journalistique nous rejoindront aux variétés, au cinéma de variété, à la Canebière, où aura lieu la première soirée du festival. Donc je repasse la parole ou à Marie ou à Manon, ou à Morgane. Qui vont nous présenter peut-être une autre soirée spécifique du festival. On a parlé du jeudi 22 aux variétés, du vendredi 23 au Polygone étoilé, avec y compris un repas. Hein, donc n'hésitez pas à venir même un peu tard au Polygone étoilé. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant le week-end, samedi ou dimanche?
Alors on sera samedi au Gyptis pour deux séances. Du coup un premier fiction inédite à 18h. Et après on a une séance à 20h avec Queer Cinema for Palestine qui lance No Pride in Genocide, qui est un événement cinématographique mondial qui est co-organisé par plus de 50 partenaires, et c'est une avant-première à Marseille, parce que ça commencera en juin ailleurs. Voilà. Et on aura le dernier jour un atelier de linogravure avec la linoficine. Et on finira avec deux séances, une à 18h au...
Alors attends, tout ça c'est tellement dense, ce festival, c'est extraordinaire. Non, mais la linogravure, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai vu donc à la soirée de présentation au Gyptis vendredi dernier, il y avait une petite table, effectivement, déjà on fait des ateliers, et j'avais l'impression qu'il y avait des choses à moitié grecques, moitié palestinien. Donc tu peux nous redire, c'est quel est cet atelier?
Alors c'est un atelier qui est du coup linogravure, qui est en fait qui sont des personnes qui ont créé les papiers volants, ils s'appellent.
D'accord.
Qui ont créé un atelier qui a été ouvert à plein de sessions différentes, où il y a eu beaucoup de différents travaux sur soit des questions féministes, de questions palestiniennes.
Mais alors, concrètement, la linogravure, on fait comment? Qu'est-ce qui se passe avec ses doigts?
Alors on a une petite plaque de linoléum et en fait on vient graver un dessin qu'on a pu faire, qu'on a d'abord mis sur un papier calque comme à l'école. Et qu'après on vient mettre sur cette plaque, et après on grave avec des petits ciseaux comme les ciseaux à bois.
D'accord.
Et après on vient mettre de l'encre dessus et les imprimer, et c'est ça qui sera avec nous, qu'on a sur tous les stands du festival.
Voilà.
Et les gens qui participeront à l'atelier pourront imprimer leurs œuvres.
D'accord.
Qui seront
Donc cet atelier il a lieu quand, René Doulos?
Il a lieu le dimanche matin à 10h.
Ah, mais où?
Mais où? À la linoficine dans le 3e rue de Crimée. Et par contre, c'est limité en nombre de places parce que c'est un petit atelier, donc c'est 10 places.
Voilà.
Donc, il faut réserver, il y a l'adresse sur
voilà. Alors sur effectivement,
le site,
donc tous ceux qui écoutent là ce qu'on leur raconte là en ce mercredi 21 mai, ou qui le réécouteront plus tard en podcast. Donc le Festival Palestine, il est bien sûr très bien référencé sur Internet. Alors on le trouve plutôt à Paris, parce qu'encore une fois, il existe depuis 12 ans à Paris, mais il y a une programmation spécifique à Marseille. Donc il y a une page Facebook, il y a un Instagram. Donc Festival Ciné Palestine, les initiales c'est FCP. Voilà, FCP Marseille. Et donc, on a ici mis des affiches et des programmes à la Friche Belle de Mai et le studio Radio Galère. Et donc, bien évidemment, par ailleurs, là, il y a 4 jours temps très fort à Marseille. Mais toute l'année, lorsqu'il y a un événement particulier, le Festival Ciné Palestine propose des rencontres, propose des animations, propose des très belles affiches. Alors oui, l'affiche de cette année, d'ailleurs, je vois qu'il y a un fond orange. Et puis, alors, je ne sais pas si c'est une longue gravure, je ne sais pas quel artiste a fait cette affiche. Je le trouve toujours très belle. Donc, quelqu'un, vous voulez nous en parler, Morgane ou Marie, de l'affiche de cette année?
Alors, c'est un artiste libanais qui s'appelle Naji Almir, qui a fait l'affiche de cette année. Il avait aussi fait l'affiche l'année dernière. Donc, on le remercie vraiment. L'affiche de l'année dernière était très belle aussi. C'est une affiche qui fait référence, alors le vert et les formes, c'est du Zaatar.
Ah,
donc
la
voilà,
fameuse,
c'est
attends.
Une plante locale palestinienne qui
alors,
ressemble à du...
Attends, j'ai oublié de te couper parce que pour la première fois dans cette émission, c'est pas moi qui prononce pour la première fois le nom Zaatar puisque je suis là, Philippe, parce que j'ai créé il y a 4 ans ce projet qui s'appelle la route du Zaatar, bon, que je connais depuis une dizaine d'années, mais en tant qu'occidental, je l'ai découvert assez récemment et je l'ai découvert donc grâce à ce fameux Philistin, Jean-Marie Dansette, qui avec sa famille a créé la petite entreprise France Import Palestine il y a 20 ans. Et donc effectivement, sur cette affiche, alors quand un ami m'a fait un graphisme pour représenter cette route du Zaatar avec un bateau, il m'avait fait des trucs verts mais avec des grandes feuilles. J'ai dit mais qu'est-ce que tu me fais? Moi je crois que c'était du simple thym. Non, c'est avec de l'Origan d'Orient et effectivement l'Origan d'Orient dans la vallée du Jourdain a des grandes feuilles. Voilà. Donc dans l'affiche de cette année, il y a des symboles verts qui font penser
verts
au Zaatar. D'accord.
Exactement, et voilà, qui reprennent une calligraphie qui écrit Palestine.
Oui.
Et avec en transparence un fond de ciel qui fait référence à un des films qu'on va montrer qui s'appelle Diary of a Sky, qui est un film de Laurence Abou Hamdan et qui montre ce qui se joue dans le ciel de Beyrouth et toute la violence sourde qui se joue dans ce ciel. Donc voilà, ça fait partie déjà cinématographique assez innovant, audacieux qu'on va montrer cette année.
Non, merci beaucoup Morgane d'abord d'avoir rappelé le mot Zaatar et puis surtout de nous rappeler qu'on parle bien évidemment ici beaucoup de Palestine puisqu'on est dans l'émission Une heure en Palestine, mais que cette satanée armée d'occupation israélienne, elle fait des ravages également au Liban, elle détruit tous les liens qui unissent les gens du Moyen-Orient. Et bien sûr qu'on est tout à fait en soutien également de tous ceux qui au Liban depuis des années subissent des boucheries abominables. Voilà. Et donc moi j'avais beaucoup aimé aussi l'affiche d'il y a 2 ans, l'édition donc 2023 du Festival Ciné Palestine, portée vraiment sur l'agriculture, sur la production, qu'elle soit des fruits, des légumes, le zaatar, les dattes medjou, le friquet, le blé vert, enfin tous ces produits merveilleux. Et là aussi, bah, ce que je trouve extraordinaire dans ce que produisent les Palestiniens, que ce soit des broderies, que ce soit des céramiques, que ce soit donc des graphismes, c'est cette capacité que ces gens-là ont à produire des sons, à produire des couleurs d'une force, d'une vigueur incroyable et d'une grande joie. Et c'est ça que je retiens de ces gens-là. Et donc, ce qui fait le fil, alors non pas orange mais rouge de l'édition de cette année, donc c'est cette histoire de strings. Alors bon, c'est la plage, mais non, il ne s'agit pas des strings hein, que Donald Trump voudrait voir et d'autres sur une soi-disant riviera à la française à Gaza. Non, ce sont les fils de ces fameux cerfs-volants que Rafat Al-Arir a demandé que les gens mettent en l'air. Ce sont ce dont tu nous parles. Redis-nous s'il te plaît le film qui parle du ciel.
Il s'appelle Diary of a Sky et d'accord, c'est un film de Laurence Abou Hamdan.
Ok. Voilà, donc vous avez compris, c'est un festival très important et qui parle de tout ce qui pourrait se passer de tellement beau autour de notre mer Méditerranée, mais qui est gâché depuis des décennies par des abominables colonisateurs qui ne voient la mer que pour servir à faire flotter des porte-conteneurs ou des porte-avions, ou alors les forêts là-bas au fond, alors que c'est la source absolue de la vie. Je rappelle qu'il y a ce film disponible également sur YouTube qui s'appelle « Aimer la mer à Gaza ». Et je crois qu'il est temps, il est largement temps d'écouter une autre musique. Alors je crois qu'on a écouté donc d'abord « La mer » de Issa Mourad, qui est un oudiste qui soutient depuis le début le Festival Ciné Palestine. Ensuite on a écouté « If I Must Die », c'est-à-dire « Si je dois mourir », le texte du professeur poète Rafat Al-Arir, qui avait été mis en musique chez nous par HK et là par Checkpoint 303. Mais on a passé à notre technicien Sidi une musique de l'incontournable Mahmoud Darwish avec Camilla Joubran. On écoute Mahmoud.
على فمه السلاسل ربطوا يديه بصخرة الموتى وقالوا أنت قاتل أخذوا طعامه والملابس والبيارق ورموه في زنزانة الموتى وقالوا أنت صاد أخذوا دمي العينين والكفين. إن الليل زائل زائل لغرفة التوقيف باقية ولا زرد السلام.
Voilà, merci Sidi. On est obligé de raccourcir cette musique si belle parce que une heure en Palestine, ça passe vite. Et d'autant plus qu'on a des personnes au micro ou à distance qui ont beaucoup de choses à dire. Et donc, Christian nous a parlé du boycott de produits alimentaires. Mais Morgane vient de nous dire que, d'abord, je tiens à rappeler que le film palestinien, il y a énormément d'Israéliens qui s'y impliquent. On a parlé d'Eyal Sivan, mais évidemment, on a eu la chance de voir projeter aux variétés le fameux documentaire No Other Land, réalisé par des Israéliens et des Palestiniens. On a réussi d'ailleurs à le faire projeter aussi au plus ancien cinéma du monde en activité, l'Eden Théâtre à la Ciotat. On sait ce qui s'est passé ensuite. Ce film est tellement puissant qu'il a eu donc l'Oscar du meilleur documentaire. Mais juste après, l'un des Palestiniens qui est revenu dans son village, il s'est fait lyncher par des colons. À ce moment-là, il s'est retrouvé dans une ambulance, mais au lieu d'être amené à l'hôpital, il a été amené en prison par des soldats israéliens. Je crois que ça s'est bien terminé, son histoire.
Il a été libéré.
Il a été libéré. Et alors Morgane, tu nous disais que, donc je répète, il y a beaucoup d'Israéliens qui évidemment sont tout à fait contre ce que fait l'État d'Israël depuis 1948 et qui s'impliquent par le cinéma. Il y a évidemment chez nous à Marseille Eyal Sivan. Et tu voulais nous dire, Morgane, que par rapport au boycott...
Oui, je voulais dire en écho à ce que dit Rizlen, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle le PACBI, c'est des directives pour les boycotts académiques et culturels. Et en fait, nous, le Festival Ciné-Palestine, ça fait partie de nos principes fondateurs, on s'inscrit dans cette ligne de boycott. Donc, l'idée, c'est de ne pas montrer de films israéliens ou de films financés par Israël ou de films qui cherchent à laver Israël de ses actions. Donc voilà, on est en lien avec PACBI. En cas de doute sur un film, on communique avec eux et
voilà.
On s'inscrit dans cette ligne politique.
Voilà, on connaît par rapport aux entreprises qui produisent des produits le greenwashing, mais il peut y avoir aussi le cinéma washing. Et donc voilà, le cinéma peut être un outil fantastique, mais aussi un outil de propagande. Et donc il faut veiller à ce que les gens soient sincères. Voilà. En tout cas, le temps passe vite et donc on est donc mercredi 21 mai et vous avez compris que dès demain, jeudi 22, c'est au cinéma de variété que le Festival Palestine se déroule à partir de 19h jusqu'à tard. Le vendredi 23 mai, ça sera donc au Polygone étoilé. En plus, on pourra donc partager un repas, des tables rondes. Le samedi 24 mai, au superbe cinéma Le Gyptis, qui est pas très loin d'ici, qui est dans notre merveilleux quartier de la Belle de Mai. Et le dimanche 25, alors dès 10h du matin, il y aura quelques places à l'atelier de linogravure, la Linoficine. C'est à la rue de Crimée, à Marseille. Et puis, il y aura les incontournables petits mais très importants cinémas du Cours Julien, le Vidéodrome et le cinéma La Baleine. Voilà. Je rappelle à tous ceux qui s'intéressent à la Palestine ou au Liban, d'ailleurs, hein, qu'à Marseille, on a l'association Palestine 13. Le site palestine13.org est très bien conçu. Il y a un agenda d'événements locaux comme ce festival ou nationaux. Il y a plein d'informations. Donc, ça s'appelle assopalestine13.org. Et puis, tous ceux qui veulent boycotter, ils ont tous les renseignements dans la campagne BDS, Boycott des Investissements Solidarité. On remercie beaucoup l'équipe du Festival Palestine et vous êtes bien sûr les bienvenus à Radio Galère, en plus de l'émission Une Heure en Palestine, parce que la radio, c'est tellement important. Dans le cinéma, on sait très bien que le son est très important. Donc merci Sidi, merci Radio Galère d'accueillir Une Heure en Palestine. Et bon festival à tous et à toutes et ben, rendez-vous bientôt.
Merci, merci beaucoup.
Merci.
Merci.